And I won more premierships alone than the other 19 managers together.
Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Je vous aime, vous comprenez? Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la toute première émission du 12e homme. J'accueille Thomas et Jean, vos nouveaux consultants préférés. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Au programme du jour, beaucoup de football évidemment, des infos, de la passion et des prises de position. On débutera en première partie d'émission par notre cher Ligue 1 avec un tour de l'actualité du championnat et les top flops de cette 17e journée de Ligue 1. Ensuite, on va vous faire voyager l'Arabie Saoudite, l'Écosse et l'Angleterre. Petit point en fin d'émission sur notre équipe locale, le Pau FC. Tout d'abord, les résultats de cette 17e journée de Ligue 1 Uber Eats qui a eu lieu la semaine dernière. Monaco et Nantes s'imposent sur la plus petite démarche à domicile, 1-0 face à Brest et Auxerre. Toulouse domine Ajaccio, 2-0. Lorient enfonce encore plus Angers en s'imposant au stade Raymond Coppa, 2-1. Clermont crée la surprise et s'impose 1-0 à Lyon. Coup de tonnerre à Bollard. Lens fait chuter l'ogre parisien en s'imposant 3-1 devant son public. Lille et Reims se neutralisent, seul match nul de cette journée de Ligue 1, 1 partout. Troyes se donne de l'air en s'imposant à Strasbourg 3-2 et s'éloigne de la zone rouge. Marseille s'impose 2-1 à Montpellier et Rennes bat Nice logiquement sur le même score. Petit point classement maintenant. Angers reste bon dernier, toujours pas de victoire en vue. Brest, Auxerre et Strasbourg ne gagnent pas et restent relégables. En haut du classement, Lens n'est plus qu'à 4 points du PSG après sa victoire face à son concurrent. Marseille complète le podium, suivi de près par Rennes et Monaco. Que des victoires pour les membres du top 6, sauf Paris, les positions ne bougent pas. Après ce petit point statistique, on va entrer dans le vif du sujet avec le point de chaque membre de l'équipe sur notre championnat français. On commence avec Thomas qui voulait nous parler du PSG, je crois.
Oui, Paris, club vitrine du football français. Déjà un club assez compliqué à analyser, on va dire. Et en plus avec une saison particulière avec la Coupe du Monde. On a vu que le PSG a fait un gros début de saison. Mais je me demande si c'est pas un début de saison en trompe-l'œil, avec des joueurs qui ont fait une grosse préparation physique d'intersaison pour jouer à la Coupe du Monde, comme l'a dit Mbappé en conférence de presse, qu'il avait préparé sa saison entière, mentalement et physiquement, sur la Coupe du Monde. Et depuis la reprise après la Coupe du Monde, on voit certains joueurs au PSG une certaine décompression, j'ai l'impression, comme chez Neymar par exemple, Marquinhos ou d'autres. Et c'est à se demander si le Paris Saint-Germain ne va pas se transformer en Mbappé Saint-Germain sur la deuxième partie de saison. Parce que si on fait un petit tour des trois mousquetaires, comme on les appelle devant, Neymar, Mbappé et Messi. Neymar qui revient, on peut se demander si c'est encore un joueur de foot, hein, avec sa cheville un peu flexible. Messi qui a gagné la Coupe du Monde, il a atteint son objectif de vie, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il va avoir encore la motivation pour emmener le PSG en Ligue des Champions? Mais Mbappé, lui par contre, je pense qu'il va avoir une rage de victoire, une rage de vaincre. D'ailleurs, il n'a pas pris de vacances après la défaite en Coupe du Monde, même s'il ne fera toujours pas les efforts défensifs, comme on a pu le voir pendant la Coupe du Monde. Tout ça me mène à penser que le PSG peut avoir une seconde partie de saison assez compliquée. Déjà, en Ligue des Champions, je ne les vois pas passer face au Bayern Munich, mais je pense que ça va être un beau match, parce qu'avec le PSG en Ligue des Champions, il se passe toujours quelque chose d'inédit. Et en Ligue 1, j'ai envie de dire attention, parce que le PSG peut se faire surprendre avec Lens, qui est en train de faire une saison juste exceptionnelle. On a vu le match de dimanche dernier où justement les Lensois ont surpris les Parisiens. Donc il va falloir faire attention au PSG. Et au milieu de tout ça, on a un entraîneur français, Christophe Galtier, que tout le monde attendait sur le banc du PSG, qui a fait ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire passer à 3 derrière, mais finalement ça n'a pas tenu longtemps. Du coup, repasser à 4 derrière, on voit que ça ne marche toujours pas. Ça se demandait si Galtier est vraiment l'homme de la situation et si l'équipe est vraiment meilleure qu'avec Pochettino, Tourelle ou même Emery. Donc je pense qu'il va falloir faire attention au PSG en cette seconde partie de saison et voir si le club va réussir à maintenir la bonne dynamique de la première partie de saison. Ce que je pense, ça ne va pas être tout à fait possible, mais tout va dépendre d'Mbappé, comme souvent, comme en équipe de France d'ailleurs.
Jean, t'en penses quoi toi du Mbappé Saint-Germain ?
Le Mbappé Saint-Germain, oui, il y a un Mbappé Saint-Germain, puisque c'est que lui, je pense, qui peut tenir encore le PSG. Messi, je pense pas qu'il va être l'homme de la situation, parce qu'il a atteint son objectif de gagner la Coupe du Monde. Et puis il y a aussi Marquinhos, qui, je pense, encore traumatisé de ce poteau face à la Croatie. Donc, même là, en défense, même contre Lens, comment il se jette, je pense qu'il est encore un peu traumatisé de sa Coupe du Monde. Donc oui, attention au PSG, mais même face au Bayern Munich, je ne vois pas le Bayern Munich aussi si solide que ça.
Ouais. Voilà. Moi, personnellement, je pense que Paris sera champion, mais attention à ne pas se faire surprendre. Mais bon, qui ne gagnerait pas le championnat avec une telle équipe ? Donc maintenant, on a fait le tour de la question. C'est à toi, Jean. Tu n'es pas convaincu par les Lyonnais ?
Non, je ne suis pas du tout convaincu par les Lyonnais. La révolte avait sonné la semaine dernière, pourtant face à Brest. Les Gones s'étaient imposés 4-2 dans le Finistère. Un match avec beaucoup d'envie, de détermination. Mais bon, face à Clermont, qui n'ont pas gagné depuis 6 matchs, l'objectif remontada, remonter sur le podium, des Lyonnais devait continuer. Pourtant, les hommes de Laurent Blanc n'ont pas pris les bonnes résolutions, car en effet, défait 1-0 à domicile, les Lyonnais ont oublié que la possession ne faisait pas tout. 60% de possession, 13 tirs, seulement 2 cadrés. Les attaquants à la peine, à la casette bien timide, tout comme Toko Ekambi qui aura tiré 3 fois sans jamais cadrer. Petit point pour Cherki quand même, qui aura tenté d'insuffler un vent de révolte. Seulement il était seul dans une équipe lyonnaise qui est à l'image de ses dernières saisons, beaucoup trop irrégulière. Je ne vois pas comment ils pourront décrocher l'Europe, sachant qu'ils sont à 9 points de Monaco qui est 6e, et avec une irrégularité pareille, un stade vide, des supporters en colère, la saison peut être très très longue pour les hommes de Laurent Blanc.
Ouais, saison très longue pour Lyon, je pense que les résultats sportifs de Lyon sont à l'image de l'extra sportif. L'avenir ne semble pas stable à Lyon, ni sur, ni hors des terrains. Et toi Thomas, t'en penses quoi de Lyon ?
Bah, je pense que Lyon, c'est la crise. Comme vous l'avez dit, c'est la crise partout. La présidence, avec le rachat qui se passe pas très très bien. Dans le staff, avec une équipe de recrutement qui n'est pas au top. Et sur le terrain, on voit que dans le jeu, c'est quand même assez vide. Laurent Blanc, qui est arrivé avant la trêve, va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Tout va se jouer pour moi au mercato, qui est en cours. C'est-à-dire que si Lyon arrive à recruter 2-3 bonnes recrues à chaque ligne, derrière, au milieu et devant, ça peut sauver la saison. Mais comme tu l'as dit, Jean, je ne pense pas qu'ils vont réussir à accrocher l'Europe. Et ce qui est assez fou, c'est quand on voit l'effectif de Lyon, se dire que Lyon ne va pas être en Europe, on peut dire que c'est un échec assez énorme.
De Lyon, on va passer à l'OGC Nice, qui vient de perdre face au Puy-en-Velay en Coupe de France. 2 défaites après celle à Rennes. La série de 7 matchs sans défaite est finie. Pas de fond de jeu, un board en reconstruction, des joueurs perdus alors que sur le papier, c'est pas des peintres. Que faire pour une équipe 11e à la moitié du championnat alors qu'elle prétendait aux places européennes ? Virer Favre, attendre ou sortir un mercato salvateur ? Une chose est sûre, Nice est au fond du puits. Jean, t'en penses quoi toi de Nice ?
Je pense que ils seront, comme d'habitude, un peu au milieu de tableau. Nice n'y est pas trop. Ils perdent aujourd'hui face à... Ils ont perdu en Coupe de France hier. Ils ont perdu face à Rennes. Je ne les vois pas remonter. Et je pense qu'il faut préparer la saison prochaine déjà pour eux.
Thomas ?
Je me demande si à Nice, le projet est crédible de la part d'Ineos. Pour moi, Nice, c'est vraiment l'équipe surprise de cette Ligue 1, mais pas dans le bon sens. Il n'y a aucune amélioration depuis le début de saison. La trêve n'a rien changé. Au retour de la trêve, nul à domicile contre Lens. Bon, c'est quand même Lens. Défaite à Rennes, mais rien dans le jeu. On a eu un changement tactique quand même au retour de la trêve avec un passage à 5 derrière, qui à mon avis est juste là pour combler la vitesse de Dante. On voit donc la faiblesse de l'effectif. D'ailleurs, effectif qui est très mal construit. On va faire un petit tour de l'effectif. On peut voir Kasper Schmeichel, qui n'a jamais porté aussi bien son prénom. Dante, va falloir, je pense, qu'il arrête de jouer un moment. Attal qui passe plus de temps à l'infirmerie que sur les terrains, Barr qui s'entre en tribune, et Barclay et Ramsey qui sont juste venus pour la photo. On voit bien que l'effectif est extrêmement mal construit. Je pense que malgré tout, l'effectif est assez fort pour rester en Ligue 1 l'année prochaine, rester tranquillement dans le milieu de tableau comme Nice sait très bien le faire. J'allais dire espoir d'un bon parcours en Coupe de France pour sauver la saison et se qualifier en Coupe d'Europe, mais surprise,
c'est mort.
L'OGC Nice se fait sortir par le Puy-en-Velay, équipe de nationale. Il reste la Coupe d'Europe, mais là aussi, je n'y crois pas trop. Donc, il va falloir voir si Nice arrive à sortir de la crise. Et est-ce que Favre va rester à l'OGC Nice à la fin de la saison, même en cours de la saison ?
On va clôturer cette page Ligue 1 par notre top flop de cette 17e journée. Moi, mon top, il m'a paru évident. C'est Lens qui a battu collectivement et avec la manière un PSG désorganisé. Mon flop, qui n'en est pas vraiment un, C'est la blessure de Terrier, parce que je pense qu'elle va vraiment faire très très mal à Rennes dans cette seconde partie de saison. Et toi Jean, ton top flop ?
Mon top, c'est la demi-volée de Xavier Chavalerin dans un match de la peur entre deux équipes du bas de tableau. On pensait que ça allait pas être un très beau match, finalement 3-2, 74e minute, Xavier Chavalerin vient à la suite d'un corner mettre une magnifique demi-volée et poser un vent glacial dans les tribunes de la Méno. Et mon flop, c'est le LOSC, qui tout comme Lyon, Lille est un peu le roi de l'irrégularité, pardon, après une victoire solide face à Clermont 2-0, et aussi une victoire 4-0 à Naples en match amical. Ils retombent dans leur travers, bon, ils perdent pas, mais ils concèdent toujours les nuls face à une équipe de... Ils sont inoffensifs offensivement, et ils perdent des points trop facilement, je trouve.
Thomas, qui est-ce qui t'a ébloui pendant cette journée de Ligue 1?
Alors, ce week-end, un joueur m'a particulièrement ébloui, c'est Loïs Openda, l'attaquant du Racing Club de Lens. J'aurais pu dire ailleurs toute l'équipe de Lens, parce qu'ils ont fait un match énorme, mais Openda a fait un match vraiment très très intense, et est décisif sur deux buts. Le premier, où il fait un appel... le deuxième, pardon, où il fait un appel en profondeur, où il laisse Marquinhos sur les fesses, et il trompe Donnarumma. Et le deuxième but, où il fait la passe magique en talonnade pour Claude Maurice, qui vient crucifier Donnarumma. Et les appels qui ont fait très très mal à la défense du PSG. En flop, j'ai choisi un flop assez bizarre, vous allez me dire. Nuno Tavares, j'ai choisi comme flop. Pourtant, il a marqué, et il a fait un bon match, mais... le joueur a complètement pété les plombs à la fin du match. Marseille gagne 2-0 tout tranquillement à la 80e minute, et qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire, Nuno Tavares? Une grosse balayette au joueur de Montpellier et prendre un carton rouge, et il met Marseille en grande difficulté parce que juste derrière il y a un pénalty pour Montpellier, et Montpellier aurait pu revenir. Ça aurait été totalement de la faute de Nuno Tavares, et je trouve que cette action montre bien l'intelligence du joueur, c'est-à-dire que on voit dans ses prises de décision qu'il ne fait jamais les bons choix, que quand il fait des courses avec le ballon, c'est très très brouillon. En fait, on comprend pourquoi Arsenal l'a laissé à Marseille.
La Ligue 1, c'est fini pour aujourd'hui. On enchaîne maintenant avec le tour du football et on décolle pour l'Arabie Saoudite avec Thomas.
Oui, depuis la signature de Ronaldo en Arabie Saoudite au club de Al Nassr, j'entends beaucoup de personnes dire « Ronaldo, depuis qu'il est parti du Real Madrid, sa fin de carrière, elle est vraiment nulle ». Alors là, je me pose 5 secondes et je regarde un peu toutes les stats, les chiffres, et je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment raison? Déjà, j'aimerais bien commencer par la déclaration que Ronaldo a faite en 2015, où il dit qu'il ne finira pas sa carrière dans un club au Qatar ou aux États-Unis. On peut dire qu'il a tenu promesse, vu qu'il n'a pas été au Qatar, mais en Arabie Saoudite. Non, plus sérieusement, des fois, il vaut mieux fermer sa bouche dans le football. On ne va pas se mentir, on sait pourquoi il est allé là-bas, hein, pour l'argent et marquer des buts facilement pour améliorer ses stats. Mais sa fin de carrière est-elle vraiment ratée? Attention, parce que quand il quitte le Real Madrid, il a plus 20 ans. Il est dans la trentaine. Il arrive à la Juve, où il joue 2 ans et demi, je crois. Il joue 134 matchs, marque 101 buts, avec notamment un triplé en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, qu'on se souvient tous. Et c'est encore un des meilleurs buteurs de Serie A, alors que ça fait 2 ans qu'il n'est plus là. Certes, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais il ne peut pas faire tout seul. Ensuite, il arrive à United, dont le club... qu'il l'a révélé, il revient, il a 36 ans, il marque 27 buts en 54 matchs, avec une moyenne qui fait un but tous les deux matchs, ce qui est pas mal vu l'intensité de la Première Ligue, c'est pas la Serie A. En Ligue des Champions, il a quand même sauvé United je sais pas combien de fois en phase de poule en marquant des buts à la dernière minute, notamment contre Villarreal. Mais après, quand tu joues avec United, t'as quand même un handicap, derrière c'est Maguire, donc je pense que Ronaldo n'a pas été vraiment aidé sur ce coup-là. Donc je dirais que je suis pas d'accord pour dire que la fin de carrière de Ronaldo est ratée. Je trouve que pour un joueur de 37 ans, c'est vraiment honorable. Et puis, un retour en Europe n'est pas impossible. Il suffit de voir Zlatan qui part aux États-Unis et qui revient au Milan AC. Et surtout, comme nous le dit Marca, apparemment dans son contrat, il y aurait une clause qui dirait que si Newcastle se qualifierait en Ligue des Champions, Ronaldo pourrait venir en prêt à Newcastle, sachant que c'est le même propriétaire pour les deux clubs.
Jean, pour toi, Ronaldo finito?
Tu m'as volé mon info. Oui, c'est vrai qu'il peut revenir toujours en Europe. Mais après, on peut le voir de deux façons. Ça peut être la fin de la carrière de Ronaldo, parce quand même, repartir en Arabie Saoudite. Et je pense qu'en à Manchester United, il était quand même en dessous. Mais après, il a quand même 36 ans. Mais aussi, on peut voir que ça peut être aussi le développement du foot en Arabie Saoudite. Parce que... il vient, ça va être quelqu'un, je crois même sur les réseaux sociaux, ça, Al Nassr a pris
10 millions d'abonnés en un jour.
Comme ça. il revient, ils vont gagner beaucoup d'argent. La Ligue Arabie va prendre la lumière. Et donc, je pense que ça peut être le développement du foot moderne en Arabie Saoudite. Ils ont gagné l'Argentine en Coupe du Monde. Ça peut être quelque chose de bon. Je pense que ça peut être quelque chose de bon pour Ronaldo. Il développe, il va jouer avec d'autres joueurs. Je pense que ça peut être bien. Mais aussi, c'est un peu triste quand on voit le Ronaldo du Real de Madrid qui a gagné 5 Ligues des Champions et qui se retrouve là-bas à Nasser, juste peut-être pour l'argent.
Ouais. J'y crois pas du tout, moi, qu'il est allé là-bas pour développer le football de l'Arabie Saoudite. Parce que déjà, quand il est arrivé, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait trop de joueurs étrangers. Ils ont résilié le contrat de Vincent Aboubakar, qui était là tranquillement. Ronaldo est arrivé, hop, on le sort de l'équipe, juste parce que Ronaldo arrive. Super l'ambiance.
C'est les grandes stars.
C'est les stars. Mais justement, puisqu'on en a parlé, moi j'allais vous parler de Newcastle, 3ème de Première Ligue, un effectif, ma foi, séduisant. Première partie de saison réussie pour Newcastle. Leur récent nul face à Arsenal nous le confirme. Newcastle joue le haut de tableau et même le très haut. Le début d'une nouvelle ère peut-être pour le club, ça reste à prouver. En tout cas, pour moi, Newcastle, c'est la Champions League. Et toi, Jean ?
Moi, je pense qu'il y a quand même il y a des facteurs pour dire qu'ils peuvent aller en Ligue des Champions. Ils sont très solides défensivement. Ils font un pressing intelligent. Contre Arsenal, je sais que j'ai vu le match contre Arsenal. J'étais un peu déçu de ce match quand même, je m'attendais à quand même beaucoup plus de jeux.
Match,
et finalement,
match fermé, c'est pour ça.
C'est très fermé, très dur. Et on peut dire, oui, il n'y a pas encore les gros sont pas encore là, mais bon, on est déjà en phase retour, je crois, du championnat.
Pas encore, presque.
Pas encore, mais on est quand même à mi-championnat.
Ouais.
Liverpool n'est pas trop encore là. United revient fort, mais ça peut être l'inquiétude de Newcastle.
Il y a de la place.
Il peut y avoir la place pour au moins jouer la Ligue Europa ou l'Europe, tout simplement.
Toi, Thomas, Newcastle en Champions League ?
J'ai un avis assez mitigé sur la question. Déjà, je dirais dans un premier temps que Newcastle est une équipe pays, hein, comme j'aime bien appeler ces équipes-là, comme le PSG ou Manchester City, mais qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ont construit une équipe. Ils n'ont pas acheté une star par ligne. Ils ont acheté vraiment des joueurs pour faire une équipe. Et d'ailleurs, ils ont fait un bon début de saison, tout ça, en gagnant contre les concurrents directs. J'ai regardé le match contre Arsenal aussi. Et j'étais extrêmement déçu de ce match. Je m'attendais vraiment à un match assez fou. Mais franchement, il ne s'est rien passé du tout. On a vu Newcastle vraiment, vraiment dans le dur, dans le jeu. Et Arsenal avoir du mal à percer le bloc de Newcastle. Je dirais que Newcastle peut aller en Ligue des Champions, mais pour moi, le facteur qui va faire qu'ils vont y arriver ou pas, c'est le retour des gros. Pour moi, c'est si United fait une bonne deuxième partie de saison, si Liverpool fait une bonne deuxième partie de saison, Newcastle n'ira pas en Ligue des Champions. Donc ça, à grosse cote, mais à voir.
Donc à voir si Newcastle finira en Champions League. Maintenant, on file en Écosse. Jean va nous conter l'histoire du Old Firm.
Exactement, je vous emmène en Écosse parce que même si le championnat écossais n'est pas le plus emballant en termes de qualité footballistique, le pays de la cornemuse et du 15 de chardon s'arrête de respirer deux fois par an pour le Odd Firm, le match entre les Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers. Les deux clubs d'Écosse qui se sont quittés sur un match nul 2-2 la semaine dernière domine totalement le championnat d'Écosse. 52 championnats pour les Celtics, 55 pour les Rangers. Ces deux équipes se battent pour le titre du champion d'Écosse et le Odd Firm est très disputé. Et ce sont les Rangers qui dominent de peu ce derby avec 168 victoires contre 162 pour les Verts et Blancs. Le premier derby datant de 1888 était un match amical, pacifiste. Seulement depuis, ce match amical n'a plus rien de pacifiste. Des Écossais accusent le capitalisme d'avoir rendu ce match sanglant et séparatiste pour faire toujours plus de profit en le rendant spectaculaire. D'ailleurs, le mot « Old Firm » veut dire « ancienne entreprise ». Le derby des deux Glasgow connaît des séparations sur le plan religieux et politique. Tout d'abord, les Celtics se considèrent comme catholiques et défendent la cause irlandaise qui devrait ne former qu'une seule identité, donc rattachée à l'Irlande du Nord. Les supporters des Celtics se disent être des Écossais originaires d'Irlande, c'est pour ça qu'il y a toujours les drapeaux irlandais dans les stades, tandis que les Rangers se rapprochent de l'idéologie anglaise en se rattachant aux idées protestantes. Ils se soutiennent, eux, à l'intégration de l'Irlande du Nord, comme ils soutiennent les idéaux anglais. Les Rangers se voient plus comme des conservateurs s'opposant au libéralisme des Celtics. Vous l'aurez compris, le Old Firm n'est pas qu'un simple match de foot, il est le reflet de la division au sein du monde britannique.
Et toi, Thomas, t'as entendu parler du Old Firm, toi ?
Bah, bien sûr, quand même, quand on aime le football, forcément, on a déjà entendu parler du Old Firm Derby. C'est, bah, comme tu l'as dit, le match le plus attendu d'Écosse, même un des matchs les plus attendus en Europe. Moi, j'adore ce genre de match-là, ce genre de derby. On a les mêmes en Angleterre, Liverpool, Everton, et tout ce qui s'ensuit. C'est des matchs vraiment hyper intenses. Et c'est un match dont les Irlandais ont été privés pendant 4 ans avec leur relégation des Rangers administrativement en 4e division entre 2012 et 2016. Donc, ça fait du bien de revoir ce genre de match. Et puis, les ambiances là-bas sont toujours extraordinaires.
Donc maintenant qu'on a fini le tour du monde ou presque, on va rentrer à la maison. Thomas, comment va notre chère équipe paloise ?
Alors, petite équipe du Pau FC a joué 2 matchs la semaine dernière. Un match en championnat, on va commencer par celui-là, avec une défaite à Niort sur 2 buts à 1. Ce qui fait que Pau se retrouve 13e avec 21 points. Et attention à la mauvaise série en cours avec 2 défaites de suite. Ce qui fait qu'il se retrouve à 3 points de la zone rouge. Et un prochain match contre Grenoble à domicile qui sera quand même assez compliqué. Mais la parenthèse de la Coupe de France est venue émerveiller les Palois avec une victoire contre Montpellier 2 buts à 1. Ce qui fait que les Palois sont qualifiés pour le prochain tour. Ils vont jouer contre Lille à Lille. Alors on peut dire que l'histoire va être rapidement finie.
On verra ça pour nos amis Palois. Merci d'avoir écouté cette première émission du 12e homme. Merci à Thomas et à Jean pour leurs fines analyses. On espère que vous avez passé un bon moment. Attention, match, gros match pour l'Europe mercredi, le choc de la 18e journée, Lorient-Monaco. Bonne journée et à la prochaine.